en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'héliophysique est la science qui étudie le magnétisme et l'énergie libre de la couronne solaire. Aujourd'hui, les hommes ont déterminé quatre objectifs autour de cette nouvelle science. La recherche spatiale sur la couronne solaire, également mieux comprendre le magnétisme solaire pour comprendre le magnétisme terrestre, également la possible exploration humaine et enfin l'exploitation concrète de l'énergie solaire à des fins de transport aérien. Serge Couchmi est chercheur depuis 25 ans à l'Institut d'astrophysique de Paris, au CNRS. Il a collaboré à de nombreux projets internationaux, notamment le vol Eclipse du Concorde 001 en 1973 et le vol de la station Salyut 7 du premier cosmonaute français. Il vous donne les grands principes du magnétisme et de l'énergie libre de la couronne solaire. Sa conférence avait lieu en mai 2009 au Bureau des Longitudes à l'Institut de France. Pour suivre au mieux ces explications, vous pouvez télécharger sur le site canalacademy.com le support visuel de sa communication. Tout de suite, Serge Couchmi.
Je voudrais, peut-être avant de vraiment commencer cet exposé, rappeler qu'une science nouvelle, comme disent nos collègues anglo-saxons, l'héliophysique est née essentiellement aux États-Unis, mais... En fait, le virus se propage et maintenant, les Japonais, les Russes et maintenant, de plus en plus, en Europe, on a tendance à voir cette nouvelle discipline comme quelque chose de très important. Discipline qui fait le lien entre quelque chose d'assez classique, et la physique solaire, qui comprend l'étude de l'étoile Soleil, structure interne, etc., de son atmosphère, mais surtout aujourd'hui son activité magnétique, qui comprend les phénomènes d'éruption dont on va parler très largement. Et discipline qui fait le lien avec les relations Soleil-Terre. Alors, relations Soleil-Terre étendues à tout le milieu interplanétaire et même jusqu'aux confins du système planétaire, ce qu'on appelle l'héliosphère. Alors, cette discipline est apparue comme résultat du lancement d'un très grand programme. Et là, je m'excuse pour cette dia vraiment très indigeste, mais j'ai voulu vous montrer vraiment le document authentique, celui qui vient de la NASA. C'est vraiment un copier-coller d'un document de la NASA qui présente le lancement de ce programme qui porte sur la météorologie de l'espace et qui a été appelé LWS, Living with a Star, vivre avec son étoile, un programme qui est, comme vous le voyez, considérable puisqu'il s'élève à 10 milliards de dollars, étalé sur à peu près une dizaine d'années. C'est défini dans le cadre de... À la NASA, on appelle des objectifs stratégiques, quatre objectifs stratégiques qui concernent la science spatiale dans son ensemble, science de la Terre, l'exploration humaine et les développements associés, qui sont évidemment surtout liés à la conquête de l'espace et notamment les missions humaines d'astronautes vers Mars. Et pour terminer, des applications beaucoup plus concrètes qui concernent le transport aérien. Dans tous ces domaines, ces quatre donc, objectifs stratégiques, la météorologie de l'espace est une composante et quelque chose d'essentiel et qu'il faut comprendre, d'où ce programme, cet énorme programme. Comment nous en sommes arrivés à ce stade, définir cet énorme programme et maintenant comment... va se développer cette nouvelle discipline, eh bien, il s'agit, je crois, d'un long chemin qui, en fait, a commencé il y a très longtemps. Et j'aimerais prendre quelques dizaines de minutes pour faire un petit peu, plutôt quelques minutes, pour faire un peu d'histoire. Donc, des programmes internationaux d'études et surveillance de la couronne solaire sont maintenant organisés un peu partout dans le monde. Donc, essayons de comprendre par quel chemin historique nous en sommes arrivés là. Quand et comment l'homme a découvert ce phénomène? Et où en sommes-nous aujourd'hui? Sans remonter trop loin jusqu'à la préhistoire, Je pense qu'un des épisodes les plus intéressants qu'il faut signaler, c'est cette époque de l'Antiquité, notamment chez les Égyptiens, l'époque pharaonique, où déjà, et de manière très largement, le soleil était considéré comme une divinité très, très importante, et notamment pour les actes de la vie quotidienne, et reconnu depuis longtemps. Et je prendrai que cette stèle qu'on trouve au Caire, qui est très connue, reproduite très largement, qui présente le pharaon Amenophis IV, qui est devenu ensuite Akhenaton, qui a introduit pour la première fois l'adoration de l'astre soleil. Et ce qui est intéressant ici, c'est peut-être ces rayons ici qui sont symbolisés avec des mains ici et des symboles difficiles, peut-être, enfin difficilement déchiffrables peut-être, qui semblent indiquer l'influence importante sur la végétation ici, donc les récoltes, l'agriculture, etc., mais aussi une influence, comme vous le voyez, sur des personnages tels que l'épouse du pharaon ici et même la descendance ici. Bon, c'est peut-être très extrapolé comme interprétation, mais ceci vraiment indique l'importance qu'on a apportée au disque solaire, considéré durant ce règne comme seule divinité honorée, durant une brève période d'ailleurs pré-monothéiste. C'était le seul dieu honoré durant ces 30 ou un peu plus années du règne d'Akhenaton. Si vous comparez avec ce qu'on représente aujourd'hui, voilà une affiche qu'on pourrait presque caractériser aussi d'affiche de propagande de la NASA pour supporter son énorme programme, qui représente de nouveau donc l'influence du Soleil sur maintenant alors, la magnétosphère, et où les lignes que vous voyez ici ne sont plus des bras de longueur anormale, mais deviennent des lignes de force. C'est maintenant l'influence magnétique ici, bien évidemment, qui est. Donc l'homme moderne, on peut dire, considère toujours le Soleil ayant une influence au même titre qu'il y a 3000 ans. En tout cas, tel que c'est révélé par ce type de document. Mais ça, c'est pour le soleil. On pourrait s'étendre très longuement sur toute la mythologie liée au soleil. Mais ici, ce que j'aimerais considérer, c'est la couronne. Alors, la couronne solaire, c'est quand même l'environnement du soleil. C'est tout de même quelque chose de différent. Alors, quelle est l'origine de la couronne? Est-ce qu'on l'a observée dans l'Antiquité? Peut-être. Peut-être, et on peut avancer que c'est peut-être l'origine du mythe du soleil ailé. Je vais vous montrer tout de suite une gravure qui vous explique de quoi il s'agit. Et on peut imaginer que cette couronne aurait été découverte à l'occasion d'éclipses de soleil, d'éclipses totales. Je vous rappelle que la saison des éclipses, c'est quand même tous les 6 mois, mais bien évidemment, pour un pays donné, pour une contrée, pour l'Égypte par exemple, on peut imaginer qu'une éclipse totale de soleil a été observée par génération. Mais par de nombreuses personnes, et peut-être que des témoignages ont été apportés auprès des prêtres, et que ceci a servi peut-être à supporter le mythe du soleil ailé. Voilà une photo de l'entrée de la porte sud du temple de Thèbes, qui vous montre, alors c'est une belle représentation de ce mythe du soleil ailé, ici. Voilà une autre, j'ai pris alors dans un ouvrage d'astronomie très connu de l'abbé Moreux, une représentation du ciel, ciel diurne, enfin il y a un mélange ciel diurne, ciel nocturne, puisque vous voyez aussi des étoiles, de la déesse Nout, qui, bon, suivant les croyances de cette époque, crachait le soleil chaque jour. Et vous voyez que le soleil est ailé. Mais j'attire votre attention sur ici cette espèce de tatouage, en quelque sorte. Ici, vous voyez cette représentation ici du soleil ailé, de nouveau, qui est vraiment tout à fait semblable à la vision qu'on a aujourd'hui de la couronne solaire. Couronne solaire à l'occasion d'une éclipse totale de soleil. Donc on peut imaginer que dès cette époque, on avait observé la couronne solaire et qu'elle avait servi de support à ce mythe du soleil ailé, soleil qui vole dans le ciel et avec, enfin, sans aller trop loin, on peut maintenant examiner dans des vestiges d'autres civilisations, chez les Assyriens notamment, vous retrouvez vraiment ce dessin-là magnifique avec les ailes, et maintenant, en plus des plumes. Et les plumes, là, c'est encore aujourd'hui, on appelle les régions polaires, sont de la couronne solaire, sont toujours vues sous la forme de plumes, et on les appelle toujours des plumes polaires, encore aujourd'hui. Et même dans les civilisations précolombiennes, on peut imaginer, sur cette image d'un phénix, là, également rappelle ce qui a peut-être été vu à l'occasion d'une éclipse totale. Donc on peut imaginer que dans l'Antiquité, la couronne solaire a été observée. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ensuite, il semble qu'elle ait été complètement oubliée durant près de 2000 ans. Et bon, on peut imaginer là que les raisons... serait dans cette incompatibilité avec la cosmogonie officielle. Bien évidemment, des modèles géocentriques ne permettent pas d'imaginer que le Soleil pourrait avoir une couronne et encore moins une influence sur la Terre et sur l'homme. Et même l'astrologie, qui a quand même eu énormément d'influence durant toutes ces périodes et qui attribue un rôle dominant aux planètes dans la destinée des hommes, évidemment, est complètement en complète contradiction. On ne peut pas imaginer que le Soleil posséderait une couronne et aurait une quelconque influence. Mais la couronne est révélée approximativement vers le 17e, 18e siècle, plutôt le 10e siècle, après les grandes découvertes, etc. Et là, alors, on franchit un grand pas vers une justification, une explication beaucoup plus physique, avec l'apport de l'observation des aurores boréales. C'est très remarquable de constater que c'est par le biais de l'observation des aurores boréales qu'on a pris conscience, dès le XVIIIe siècle, de la possible interaction qu'il y avait entre l'environnement solaire et l'environnement terrestre. De Meyran, en 1733, je pense, a été un des premiers vraiment à proposer cette explication pour expliquer l'observation des aurores boréales qu'il a fait lui-même. À cette époque-là, il avait pensé que c'était des émanations des impuretés, en quelque sorte, qui étaient projetées dans l'espace provenant des taches du Soleil. Il avait presque vu une relation qu'il y avait entre les taches et puis ces phénomènes-là. Et c'est Birkeland, beaucoup plus tard, le Norvégien de Birkeland, qui a proposé alors quelque chose de vraiment physique, des courants électriques alignés sur les champs magnétiques qui proviennent du Soleil. Donc un lien déjà entre le Soleil et le lien avec les éruptions solaires est aujourd'hui largement étudié, évidemment, pour expliquer tous ces phénomènes d'éruption. Assez fin du XIXe siècle, les observations d'éclipses apportent alors énormément de choses, les dessins, puis la photographie, et puis évidemment la spectroscopie. Là, je montre des observations qui témoignent déjà de beaucoup d'imagination sur l'activité de la couronne, dont on va parler maintenant largement. Et c'est surtout grâce à la photopolarimétrie, la spectroscopie, qu'on a vraiment avancé. De manière encore plus convaincante, on peut dire que c'est avec l'invention du coronographe et la formidable contribution qu'a apporté Bernard Liot dans la connaissance de la couronne solaire que, de manière définitive, la couronne solaire appartient au Soleil. C'était encore mis en cause au début du XXe siècle. Là, de manière très convaincante, puisqu'il s'agit d'observations qui sont faites en dehors des éclipses naturelles. Donc maintenant, on étudie la couronne solaire dans des observatoires terrestres et des instruments qui permettent de faire une spectroscopie, de prendre tout le temps pour examiner dans le détail le profil des raies, découvrir de nouvelles raies. Ça, ça a été l'apport de Bernard Liot et Edlen en 1941, grâce à la physique atomique et la mécanique quantique, identifie quelques raies. Et tout d'un coup, alors là, la couronne devient quelque chose de totalement nouveau, très étonnant, un milieu d'une température qu'on ne s'attendait pas du tout, de l'ordre entre 1 et 2 millions de degrés. Et comme nous allons le voir, en plus, c'est une enveloppe qui est en expansion permanente et qui produit un vent. D'où cette image plus moderne, alors maintenant, vision moderne de la couronne solaire. Alors, je parlerai peu de la couronne poussiéreuse ici, qui pourtant, pendant longtemps, a été une espèce de confusion. On a fait une confusion entre cette composante et la composante de plasma, qui aujourd'hui est devenue la composante qui est étudiée le plus et qui a le plus d'importance dans le contexte des relations entre le Soleil et la Terre. Néanmoins, les comètes montrent une influence, vous verrez sur un film, que l'expansion de la couronne solaire influe les queues de comètes. Et ça a d'ailleurs été une des premières idées qui ont permis de supposer que l'enveloppe, la couronne solaire, est en expansion permanente et qu'il s'agissait d'une expansion supersonique, une vitesse donc assez considérable, entre 200 et 400 km par seconde, et qu'on a baptisé à cette époque le vent solaire. Alors vous allez voir que maintenant, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe, car l'activité magnétique du Soleil produit des variations extrêmement importantes dans le vent solaire. Alors j'ai choisi pour commencer, pour cette revue des observations modernes, de vous montrer un film. Alors ceux qui n'ont pas encore vu ce genre de film, ce n'est pas facile à comprendre. Je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. Le Soleil est quelque part ici. Hein, et il s'agit d'un imageur qui permet de faire des images du milieu interplanétaire entre 15 et 60 rayons solaires. Hein, encore une fois, le Soleil est ici, c'est masqué, complètement masqué, la couronne interne est masquée ici, et on observe donc cet intervalle de l'espace. Vous voyez passer rapidement ici une comète, c'est la comète Machholz, éphémère, et puis une comète beaucoup plus intéressante ici, qui est la comète de Encke. Et vous verrez que la queue ionique de cette comète est influencée, va se détacher au moment de l'arrivée d'une CME, voilà une bouffée, bouf, vous avez vu passer cette onde de choc ici, et la queue s'est détachée. Alors, on peut d'abord demander, mais comment se fait-il? On devrait voir des étoiles, on devrait voir la couronne de poussière, qui est de loin la plus importante. Bien évidemment, ces composantes ont été soustraites. Avec le traitement informatique, on a enlevé toutes les étoiles, on a enlevé la composante poussiéreuse, donc la lumière zodiacale, ou la couronne F, a été enlevée, de manière à ne montrer que ce qui est variable, c'est ce flot de plasma qui comprend des électrons et des protons. Les électrons diffusent la lumière du Soleil, ici, et ça permet de visualiser les densités de plasma. Et vous voyez que ces densités sont fortement modulées. Vous avez l'impression, d'ailleurs, si vous regardez très près, qu'on a presque deux régions ici de production du vent solaire. Voilà, là, en ce moment, là, par exemple. Alors, ceci a été fait en 2007, juillet 2007, déjà en période de minimum d'activité. Vous voyez aussi que, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, le feuillet héliosphérique, ici, où le champ magnétique change de signe, ne montre rien de particulier. Hein. Ça s'est avéré beaucoup plus complexe que tout ce qu'on avait imaginé. Cet instrument qui a permis de faire ces observations est l'imageur héliosphérique, ici, qui est placé sur un des satellites de la mission Stéréo. Une mission Stéréo de deux satellites qui ont été envoyés de chaque côté de la Terre, sur orbite autour du Soleil, et qui se sont éloignés l'un de l'autre, dont on parlera un petit peu à la fin de l'exposé. Donc vous avez, je pense, tous vu l'influence, donc bien visualisée, d'une bouffée, d'une CME, mais interplanétaire, sur la queue de la comète ionique, influence qui est de nature magnétique. Un petit bilan des observations qui ont été faites ces dernières décennies, notamment avec Yoko, qui est un satellite japonais qui a observé pendant une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, le Soleil dans les rayons X. Et beaucoup plus récemment, alors avec Soho, ici, dans l'arrêt du Fer 15, qui est formé au voisinage de 2 millions de degrés, pour illustrer la très grande variabilité de la couronne. Vous voyez qu'entre le minimum, période de minimum d'activité, ici le maximum d'activité, eh bien, on a un flux lumineux produit par ces couronnes X ou extrême UV qui varie approximativement d'un facteur 10. La couronne est 10 fois plus brillante, vous voyez, en maximum d'activité qu'en minimum d'activité, parfaitement corrélée, donc en phase avec le cycle d'activité. Et pour ceux qui en doutaient encore, je pense que vous confirme de manière définitive que la couronne est bien d'origine magnétique. Tout ce que vous voyez là est vraiment lié au magnétisme de l'étoile Soleil. Il n'y a pas d'autres facteurs qu'on puisse trouver en liaison avec la phase du cycle d'activité. Alors cette couronne, on peut d'abord se servir d'un instantané pour essayer d'interpréter comment interpréter toutes ces structures ici. Alors c'est encore à l'occasion des éclipses totales. Alors je vous montre la plus récente, celle de l'année dernière ici, avec cette magnifique photo ici, je pense, de couronne de minimum d'activité. Où alors là on a laissé toutes les étoiles. Vous voyez les étoiles du champ avec un amas. Où on a soustrait aussi la couronne poussiéreuse. Et donc l'idée, c'est d'essayer de représenter ça à partir de ce qu'on observe sur le disque. Alors, en regardant d'un peu plus près, avec une meilleure résolution, on découvre que cette couronne est extraordinairement filamenteuse. De nouveau, confirmation de la nature magnétique de la couronne, puisque ceci avait été prédit par Alven il y a déjà très longtemps. Il avait prédit que les plasmas cosmiques devaient être filamenteux et c'est tout à fait confirmé par les observations d'aujourd'hui. Mais vous voyez également des boucles, beaucoup de boucles ici, et ces boucles, évidemment, évoquent la structure du champ magnétique. Alors comment on peut représenter ça? Bien, on utilise des modèles. Un modèle ici qui existe depuis déjà quelques décennies, mais qui a été perfectionné grâce à l'utilisation de gros ordinateurs aujourd'hui, où à partir de l'observation des champs magnétiques à la surface du Soleil, on extrapole le champ magnétique dans l'espace à trois dimensions de manière à calculer la structure des lignes de force en faisant quelques hypothèses. Alors l'hypothèse principale que l'on fait ici, et on a trouvé que c'était suffisant pour bien représenter les structures solaires, c'est que ces champs sont potentiels. Alors des champs potentiels, par définition, n'ont pas d'énergie libre. Je vais y revenir. Alors sur la dia suivante, on a un petit peu enlevé des lignes de manière à essayer d'y comprendre quelque chose. Vous voyez que les lignes de champ ici rejoignent des régions de polarité différentes à la surface du Soleil. Donc la surface du Soleil est considérée comme une condition aux limites, puisqu'on y mesure de manière assez précise le champ magnétique grâce à l'effet Zeeman. C'est fait dans les observatoires au sol presque en permanence. On observe ce champ magnétique tout autour du Soleil. On fait l'hypothèse que durant une rotation, on n'a pas eu trop de variations. Et on fait une autre hypothèse. D'abord, ce sont des champs potentiels, donc on a complètement négligé les courants, hein, puisque la loi d'Ampère nous dit que le rotationnel de B devrait être égal au courant, à 4 pi sur C multiplié par le courant électrique. Le courant est nul dans la couronne solaire. Donc ça permet, avec l'équation de Maxwell, divergence de B égale 0, de déduire le champ magnétique à partir d'une fonction scalaire ou potentielle. Simplement, le gradient de ce potentiel permet de calculer le champ magnétique. Alors, ce champ magnétique potentiel, c'est un champ magnétique qui correspond à un minimum d'énergie, un état minimum de l'énergie dans la couronne solaire. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que pour réaliser ce modèle, on a besoin d'une deuxième condition limite qui est dite surface source. Alors, sur la surface source, on impose au champ magnétique d'être radial, d'être parfaitement radial. Alors, évidemment, c'est tout à fait le résultat d'une vue de l'esprit. C'est totalement hypothétique. Il n'y a pas de nappe de courant située à une certaine distance ici qui imposerait aux lignes de force de s'incurver, de devenir parfaitement radial. Mais c'est l'effet du vent solaire qu'on a tenté de représenter par cette surface source, par cet artifice. C'est un artifice de calcul qui permet d'obliger les lignes de force à être radiales et donc au plasma de s'écouler et de produire le vent solaire. Alors ça, c'est un premier modèle, champ potentiel, donc énergie minimale. Impossible d'extraire aucune énergie d'origine magnétique dans la couronne avec de telles hypothèses. Alors si... Maintenant, on va plus loin avec les observations. Eh bien, voilà une observation. Mais on observe ces ondes globales depuis une dizaine d'années. Ce sont les ondes EIT. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, ici a lieu une explosion et vous avez vu se former une onde globale, une onde qui se propage dans la basse couronne. Donc, explosion et formation d'ondes, hein. Et la question, évidemment, qui se pose, c'est quelle est l'origine, d'où vient l'énergie, comment se produisent ces explosions. Alors, si on continue, ces ondes EIT ont été visualisées de manière encore beaucoup plus évidente par une méthode de soustraction. Bon, je ne vais pas trop commenter cette méthode. Je pense qu'il suffit de visualiser le disque du Soleil ici, et vous comprendrez ici que dans cette région où a lieu l'explosion, ici, on voit apparaître donc ces perturbations qui se propagent très loin, assez rapidement. Les vitesses sont typiquement de l'ordre de 200 à 400 km par seconde, propagation. On a d'abord pensé que c'était une onde hydrodynamique. Aujourd'hui, on penche plutôt pour des réarrangements successifs du champ magnétique à partir du lieu où a lieu cette explosion. L'un des aspects importants de ce phénomène d'onde EIT, qui a été baptisé onde EIT, du nom de l'expérience d'origine française d'ailleurs, qui a permis de découvrir ce phénomène grâce à la mission SOHO, eh bien, produit un arrachement. Vous voyez que la région est plus sombre par rapport à ici, et comme elle est plus sombre, ça signifie qu'il y a moins de rayonnement, et ce déficit de rayonnement est interprété en réalité comme un manque, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de matière qui a disparu. Cette quantité de matière qui a disparu, c'est justement celle qui va produire les CMI dont on va parler maintenant. Alors, pour voir les CMI, c'est coronal mass ejection, c'est les grandes éjections de masse coronale, c'est le résultat de ces phénomènes-là. Mais avant, je veux continuer sur ces ondes EIT qui ont été mises en évidence aussi récemment grâce à des observations au sol effectuées à l'observatoire de Sacramento-Pique aux États-Unis. Une grande éruption là, au bord est du Soleil a produit cette onde ici, mais cette fois-ci non pas dans la couronne, mais dans la chromosphère. Or, la chromosphère est un milieu beaucoup plus dense que la couronne, et les énergies qui sont mises en cause sont beaucoup plus importantes que dans le cas de la couronne, puisqu'il s'agit de pression et de densité beaucoup plus importantes. Autre phénomène donc mis en évidence très récemment avec une autre mission, la mission TRACE ici, alors cette fois-ci sur le disque, mais tout ce que vous voyez ici se passe en réalité dans la couronne, car c'est visualisé dans des raies très chaudes du plasma coronal, sont des flares. J'utilise le mot flare plutôt que le mot flash. Il n'est pas très utilisé dans la littérature française, donc je préfère utiliser le mot anglo-saxon, flare, pour distinguer la phase donc radiative, cette grande expulsion de photons, de rayonnement, un flash de rayonnement que l'on distingue du phénomène d'éruption lui-même, qui est le déplacement de matière. Alors, Le défi, là, quand on regarde ce genre de film, c'est d'essayer de deviner qu'est-ce qui est la conséquence de quoi. Est-ce que le flash de lumière précède ou au contraire, est-ce que d'abord on a plutôt une éjection de matière et que le flash que l'on voit surtout ici, ici le grand flash a lieu ici, succède et donc au déplacement de matière. C'est le point de vue qui est aujourd'hui plutôt adopté. Donc les flares, très important sur le disque. Et maintenant, alors les grandes éruptions qui produisent des éjections de masse. Alors ça, c'est un très bel exemple, parce que cet exemple ici est vraiment un exemple d'école. Il se passe à haute latitude, ici. Donc vous voyez la rotation du Soleil. Ceci se passe en plusieurs heures. Ça dure, voilà, les heures ici se défilent ici. Et on voit très bien partir d'abord, vous voyez, un grand filament ici, et le flash, donc la phase radiative, se passe après. Alors ce grand filament ici s'étale le long d'une ligne d'inversion de polarité. Bien évidemment, tout ça est lié au champ magnétique à la surface du Soleil. On peut voir un agrandissement de ce phénomène ici. Donc vous voyez très bien partir d'abord, vous avez vu partir tout le filament, cette grande masse ici, qui va traverser la couronne, produire la grande éjection de masse, et l'embrillancement ici, vient après, le flare vient après. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans une région active. Tout à l'heure, on a vu des flares dans des régions actives. Dans les régions actives, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à deviner. On voit moins la phase de lancement de du grand filament, ici, de gaz, donc une grande quantité de gaz qui est lancée avant la production du flare. Alors maintenant, ces grandes CMI, on en a souvent cité. Voilà, l'équivalent de 15 jours, 2 semaines de rotation du Soleil à une époque de paroxysme de l'activité solaire. Vous voyez qu'il s'agit d'un véritable feu d'artifice. Donc le Soleil est ici, tourne, fait une demi-rotation là, durant tout le film qui est montré ici. Deux coronographes sont utilisés pour visualiser ce qui se passe autour ici. Vous voyez d'ailleurs la sphère céleste ici qui passe dans le fond et également des planètes ici qui passent. L'intérêt de ce film, c'est de montrer donc cette formidable quantité de gaz qui est expulsée durant la période de maximum d'activité ici. Bien évidemment, en période de minimum d'activité, le taux de perte par CMI est réduit d'au moins un facteur 10 à 20. Ici, il s'agit vraiment de période de paroxysme. Ce qui est aussi remarquable, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer avec l'activité du Soleil, qui est beaucoup plus importante dans les régions royales, c'est-à-dire aux basses latitudes ici, eh bien, on voit des éruptions tout autour du Soleil, et notamment dans les régions polaires. Vous voyez qu'il y en a vraiment partout, et presque même plutôt en dehors du feuillet héliosphérique. J'ai essayé sur ce diagramme d'y voir un peu plus clair. Bon, c'est vraiment une tentative d'essayer d'ordonner ce qu'on a vu avec ces différents films, avec ces différents types d'observations, etc., pour peut-être commencer à échafauder quelques théories. Tout commence par l'émergence de flux magnétiques dans la couronne. Alors ça, ce sont les régions magnétiques à la surface du Soleil, les plages faculaires, aussi évidemment les régions actives, y compris les taches, mais les taches ne produisent aucun effet particulier dans la couronne solaire au niveau des éruptions. C'est surtout les plages, les grandes plages et les lignes d'inversion de polarité aux hautes latitudes, et y compris les régions polaires. Avec donc une des propriétés du flux magnétique, c'est d'émerger en permanence à la surface du Soleil grâce à cette propriété de flottabilité. Les lignes d'inversion sont occupées par des filaments et de protubérances, alors qui vont jouer aussi un rôle, comme donc l'émergence, alors cette fois-ci, de tubes de flux qui seraient torsadés et qui produisent cette éruption. Donc le phénomène d'éruption, qui est le phénomène central, qui mélange à la fois le flair, ici, et le déplacement de gaz, donc les déplacements d'énormes quantités de gaz, de nuages magnétiques, etc. On peut mettre de côté le phénomène d'éruption confinée. Il y a des éruptions qui ne produisent pas de CMI, de grandes éjections de masse, tout simplement parce que le champ magnétique reste confiné, reste fermé. L'explosion ou ce phénomène d'éruption n'est pas suffisant, n'est pas d'énergie suffisante pour ouvrir le champ magnétique et le phénomène reste confiné près de la surface du Soleil. Alors tout ça, donc celui-ci est mis de côté, et par contre, donc tous ces phénomènes conduiraient à l'observation des CMI. Alors essayons de quantifier un tout petit peu tout ça. Bon, voilà des paramètres ici qui sont utilisés maintenant pour essayer de produire un modèle, d'échafauder un modèle. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça. Juste, je vous rappelle les vitesses qui sont mises en jeu, de 100 à 2500 km par seconde, donc vitesse très, très considérable. La quantité de masse ici emportée par une éjection de masse, ce qui est peut-être plus significatif, c'est de comparer cette masse à la masse totale de la couronne. C'est quelques pourcents, c'est typiquement, donc quelques pourcents, les plus grandes éjections de masse vont jusqu'à 5% de la quantité totale de la matière qui est dans la couronne, qui est éjectée de manière soudaine dans le milieu interplanétaire. Bon, les énergies, le flux magnétique qui est emporté, puisque c'est le champ magnétique est gelé dans le plasma coronal, et va jouer d'ailleurs un rôle important lorsque ces nuages magnétiques vont venir cogner la magnétosphère, créer des reconnexions. Pour maintenant expliquer l'origine de l'énergie qui est nécessaire pour expliquer ce phénomène de grande éjection de masse, on a besoin évidemment d'énergie cinétique. L'ensemble du nuage donc va acquérir une grande vitesse et se déplacer dans le milieu interplanétaire. Il faut aussi produire un travail contre la gravité. Il faut s'arracher de la gravité solaire. Donc là aussi, il y a un travail à produire. Donc il y a la température du nuage qu'il faut maintenir parce qu'il a tendance à se refroidir, surtout lorsqu'il est en expansion. On a besoin d'énergie, beaucoup d'énergie, et cette énergie, il faut l'extraire de la couronne. Or, on a vu que la couronne se représente bien par des champs potentiels. Les champs potentiels n'ont pas d'énergie, l'énergie minimale. Donc, il faut trouver une source d'énergie. Et on a imaginé, alors que cette source d'énergie était produite dans la couronne elle-même, probablement à la faveur de courants coronaux. Donc, le champ magnétique dans la couronne solaire serait la superposition du champ plus ou moins potentiel qui est dû à l'induction par les courants de surface ou sous la surface, et de courants coronaux. Alors ça, c'est évidemment totalement hypothétique, mais ça permettrait d'emmagasiner de l'énergie, de stocker de l'énergie dans d'abord les boucles, les grandes boucles et les structures de la couronne. Une des manières de visualiser ce phénomène serait d'étudier les différences, la différence qu'il y a entre les structures observées dans la couronne et les champs calculés dans l'hypothèse de champ potentiel. Mais avant, voilà, il faut citer le modèle standard qui permettrait d'expliquer les grandes éjections de masse. Il est essentiellement basé sur l'existence de couches de courant. Ici, il se produirait des reconnexions magnétiques. Alors, On n'entre pas dans le détail ici, dans ce, pour ce schéma, savoir où est l'énergie, comment on va l'extraire, etc. C'est purement cinématique. Vous vous souvenez de cette structure sombre tout à l'heure qui était éjectée d'abord. Donc il y a du gaz qui est éjecté d'abord. Et puis en dessous, ici, dans les boucles, ici, il y a l'embrillancement qui serait le résultat de reconnexion. Tout à fait hypothétique parce qu'on a beaucoup de mal à visualiser ça sur des observations faites dans l'extrême UV ou dans les X, etc. On ne voit pas, on n'a pas vraiment identifié cette couche, bien que bon, des candidats pour existent. Donc c'est tout à fait schématique et plutôt cinématique qu'autre chose, mais néanmoins, c'est ce qu'ont proposé un très grand nombre d'auteurs ici. Donc c'est le résultat de la synthèse de nombreux travaux où on a essayé d'unifier en quelque sorte les idées en ce qui concerne ce phénomène de grande éjection de masse et de flair, en même temps de flair. Le flair ayant lieu évidemment ici, hein, comme résultat de la précipitation de courant vers le bas ici. Alors, des tas d'autres modèles ont été proposés, existent dans la littérature. Ici, c'est une classe de modèles qui sont basés sur l'existence hypothétique de, flux, de tubes de flux émergents. Alors, on a pensé ici que les tubes de flux émergeaient déjà torsadés, c'est-à-dire avec déjà de l'énergie qui correspondrait à des champs non potentiels. Essentiellement des courants qui sont alignés avec les lignes de force, d'où des champs sans force, puisque la force magnétique est le produit vectoriel du champ et du courant. Si le courant est parfaitement aligné sur le champ magnétique, il n'y a pas de force. Donc ces courants, c'est assez facile, ce serait assez facile de les produire. On avait imaginé que ceci se produisait dans les couches sous-jacent dans les couches profondes et que les tubes de flux émergeaient déjà avec donc cette énergie contenue dans les tubes de flux. Comme vous le voyez ici, ces tubes seraient torsadés. Mais les observations les plus récentes indiquent que ce n'est pas le cas. On a pu observer de manière très précise les champs magnétiques à la surface ici et on n'a pas trouvé d'évidence en faveur de torsion comme ça des tubes de flux. Alors, on s'est attaché à développer des modèles où la torsion des lignes de force se produirait dans la couronne solaire. Voilà des modèles qui ont été élaborés à l'École polytechnique, dans l'équipe de Tahar Hamari. D'autres modèles ont été aussi développés à l'Observatoire de Meudon, dans le groupe de Pascal Desmoulins, Guillaume Ollanier, etc. Le modèle qui semble aujourd'hui le plus en vogue serait ce modèle-ci, ici, qui est dû à une équipe américaine en Tokios, ici, et qui permettrait peut-être d'expliquer alors mieux différents aspects, dont l'aspect le plus important, c'est l'ouverture des lignes de force, ici. Alors qu'ici, on ne se préoccupe pas, ici, dans ces modèles, de l'ouverture du champ magnétique global du Soleil, puisque pour que la CMI puisse partir, il faut absolument ouvrir le champ magnétique. Mais par contre, ce modèle ne permet pas, ne s'occupe pas du tout de l'éjection du filament ici. Le modèle est essentiellement basé sur des reconnexions à grande échelle qui se produiraient par ici. Mais néanmoins, permet de couper des lignes de force et ouvrir ces lignes de force. Bon, ça, c'était pour les CMI. Pour être un tout petit peu plus complet, il faut absolument aussi parler du vent rapide. Alors, le vent rapide, c'est du vent solaire qui provient essentiellement des trous coronaux, là où le champ magnétique est déjà ouvert. Champ magnétique ouvert, bon, c'est interdit par les lois de Maxwell. Les lignes de force, en réalité, vont jusqu'à l'infini. Et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe au-delà. Le point important, c'est que c'est une configuration de champ magnétique où l'énergie est maximale. Alors on a pensé que l'origine de ce vent rapide devait être recherchée dans des structures très petites comme ceci, qui sont des espèces de mini CME en quelque sorte, et qu'on a baptisé, mais avec cette particularité que la morphologie correspond à des jets très fins ici. Alors ça, il s'agit d'une séquence très serrée. Là, vous avez 30 secondes entre chaque image ici, et obtenue avec tout récemment, là, avec la mission japonaise Inode. La morphologie ici semble bien indiquer qu'on a affaire à des flots plus rapides. Justement, ça tombe bien puisqu'il s'agit d'expliquer le vent rapide. Mais pour l'instant, le bilan, lorsqu'on fait le bilan de masse entre ces phénomènes ici et le vent rapide qu'on observe dans le milieu interplanétaire, on trouve encore qu'il manque encore une certaine proportion, une certaine partie de masse. Néanmoins, c'est le principal candidat pour expliquer l'origine du vent rapide. Voilà une autre observation qui a été faite avec stéréo ici, tout récemment, avec deux points de vue différents. Donc stéréo, c'est une mission qui comprend deux satellites qui se séparent l'un de l'autre, se sont éloignés, aujourd'hui ils sont même très éloignés. À l'époque de cette observation ici, ils étaient éloignés de manière à viser le Soleil sous deux angles différents, séparés de 12 degrés. C'est d'où la différence qu'il y a entre ces deux images. Chaque petit film ici a été obtenu à partir d'images faites depuis ces deux satellites différents et qui regardent le Soleil sous deux angles différents. Alors, ça permet une vision stéréoscopique. Et l'objet de ce papier, de ce travail ici, a été de démontrer que... le mouvement que prenait le jet ici, ce flot de plasma, avait tendance à suivre une trajectoire sinusoïdale, donc l'idée de torsion ici, le tube de Fliess serait tordu. Alors c'est ce qu'on cherche. Essayer de démontrer, puisque si un tube de flux magnétique était torsadé, donc il y aurait l'influence d'un courant électrique, et donc possibilité d'extraction d'énergie. On aurait à notre disposition de l'énergie. Alors, je tenais absolument aussi à mentionner, alors maintenant, les efforts considérables qui sont faits par les théoriciens pour la modélisation de ces phénomènes. Alors, ici... c'est une modélisation d'origine japonaise, c'est encore la meilleure école, je crois, dans ce domaine-là de simulation MHD de phénomènes d'émergence. Alors, dans un champ magnétique plus ou moins constant qui correspond au champ magnétique global ambiant, ici, émerge ici une boucle coronale, et la simulation numérique permet d'étudier le comportement des lignes de force et également du plasma. Les densités sont indiquées ici. Donc ici, c'est la surface du Soleil. En fait, c'est la chromosphère. La boucle émerge de la chromosphère ici et la boucle magnétique produit des reconnexions qui vont chahuter, en fait, produire une véritable explosion ici avec la formation de plasmoïdes. Vous voyez un plasmoïde ici qui va s'échapper avec cette structure ici en G, où la densité est légèrement plus grande que la densité ambiante, donc c'est le G. Et chose très remarquable, cette simulation prédit, vous voyez ce basculement, un basculement ici très important ici de l'édifice. Avec ce mouvement des lignes de force ici ambiantes, eh bien, on a production de ce qui avait été prédit depuis très longtemps par Alven, des ondes qui se propagent, des ondes magnétiques, les ondes d'Alven, qui seraient produites à la faveur de ce type de, de, d'interaction entre une boucle émergente ici et le champ ambiant. Bon, il faudrait parler de la formation du point neutre, de ce qui se passe au voisinage du point neutre. En réalité, cette simulation est à deux dimensions, ce qui est loin de ce qu'on observe dans la réalité. Dans la réalité, il faudra refaire ça à trois dimensions. C'est en train d'être fait là en ce moment. Il y a des groupes de théoriciens qui travaillent beaucoup pour essayer de généraliser ça à trois dimensions. Et les résultats semblent confirmés. Et cette prédiction était tout à fait remarquable. On en veut pour preuve justement ce qu'on a fait tout récemment, l'existence de phénomènes chromosphériques responsables de la production d'ondes d'Alven en grande quantité est maintenant confirmée par les observations spatiales toutes récentes qui ont été effectuées sur le télescope de 50 cm d'émission inodée. Alors, il s'agit d'observations de très grande résolution, c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, c'est fait dans l'espace. Tout ce que vous voyez ici est réel, est solaire. Ce n'est pas du tout comme on le faisait jusqu'ici dans les grands observatoires sur Terre, où on était toujours dominé par la turbulence de l'atmosphère terrestre. Ici, on est dans l'espace, donc tout ce qui est ici est réel. Sur le disque du Soleil, vous voyez des phénomènes d'oscillation chromosphérique ici. C'est fait dans une raie chromosphérique. Et au-delà du disque ici, et notamment au voisinage ici d'une plage que vous voyez ici, vous voyez la production, vous visualisez la production en permanence d'ondes d'Alven, des ondes magnétiques. Ces structures ici ne peuvent être expliquées que par l'influence du champ magnétique. Vous voyez en même temps un flot, vous avez l'impression de voir un flot permanent. En réalité, il s'agit surtout du basculement des lignes de force. Ceci visualise les lignes de force. Vous avez production en très grande quantité d'ondes d'Alven. Ces ondes d'Alven peuvent emporter de l'énergie dans la couronne et permettraient alors d'expliquer peut-être à la fois le chauffage et donc le fait que de l'énergie libre est emmagasinée dans les lignes de force à grande échelle du champ magnétique. Donc j'aimerais conclure maintenant sur... j'ai essayé de vous montrer que, l'activité magnétique dans l'étoile Soleil qui est révélée par sa couronne, pour l'essentiel, intrigue en fait l'homme depuis très longtemps. Une nouvelle discipline est née, surtout aux États-Unis, que l'imbrication des phénomènes dynamiques coronaux avec le magnétisme, qui est d'abord dû aux couches sous-jacentes, suggère en plus l'existence d'une énergie libre dont le transport apparaît encore bien mystérieux. Est-ce que c'est par le biais des reconnexions magnétiques ou est-ce que c'est par les ondes? Donc c'est une grande question qu'on se pose aujourd'hui. Et l'utilisation des nouvelles technologies dans l'espace, évidemment, comme la complexité des questions qui sont abordées, y compris des questions fondamentales de physique coronale, l'énergie libre, etc., justifie la mise en œuvre de très gros moyens spatiaux. Et voilà la liste. Donc aujourd'hui, la couronne solaire est étudiée 24 heures sur 24. Beaucoup pensent que c'est vraiment l'âge d'or de la physique solaire. Voilà les différentes missions qui sont actuellement opérationnelles. Ulysse depuis très longtemps, SOHO depuis une douzaine d'années, d'autres missions américaines, TRACE, RECI, dans différents domaines d'énergie. J'ai cité aussi STEREO, là, qui sont deux gros satellites à $1 milliard. INODE, mission japonaise et britannique et américaine. Je n'ai pas parlé des missions géophysiques qui sont évidemment partie prenante dans les relations Soleil-Terre. Il y a de très nombreuses aussi missions géophysiques. Et encore moins, je n'ai pas parlé des observatoires au sol, qu'il ne faut pas oublier, où travaillent très, très assidûment des physiciens solaires. Cette année, on a vu plusieurs missions. Coronas Photon, qui est une mission russe, qui commence à être bien opérationnelle, qui a déjà été lancée. Elle a été lancée fin janvier. SDO, qui doit être lancée. Alors ça, c'est une très grosse mission américaine, à plus d'un milliard de dollars maintenant, qui doit être lancée sur orbite solaire. Et d'autres petites missions comme Proba 2 de l'agence européenne, la mission Picard, il ne faut pas oublier cette mission française qui devrait être lancée vers la fin de l'année. D'autres missions en préparation, nombreuses missions en préparation, y compris une mission française, ASPIC, ici, qui devrait permettre de simuler les éclipses totales solaires dans l'espace et observer avec une très grande précision la couronne solaire. Bon, je pense que c'est vraiment, on vit une époque extrêmement excitante, intéressante pour les jeunes. Je ne suis pas sûr qu'en France, on suive le train de l'héliophysique. Mais j'espère que bon, les choses changeront et qu'on verra aussi en France beaucoup de travaux et aussi de missions spatiales héliophysiques. Merci.
Magnétisme et énergie libre de la couronne solaire, c'était le titre de la conférence de Serge Couchmi, donnée en mai 2009 au Bureau des longitudes à l'Institut de France. Serge Couchmi est astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Restez à l'écoute de nos émissions sur Canal Académie et téléchargez les conférences du Bureau des longitudes. Vous le trouverez sur notre site dans l'onglet « Émissions ». En colloque, rubrique science. Vous pouvez également vous connecter au site du Bureau des longitudes pour connaître le programme des prochaines conférences. Elles sont ouvertes au public. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.